France Musique.
Étonnez-moi, Benoît.
Et je suis heureux aujourd'hui d'accueillir Yvan Cassard, l'homme qui, depuis bientôt 30 ans, apporte son savoir-faire classique et son art de symphoniste aux géants de la chanson française, de Johnny Hallyday à Roberto Alagna, en passant par Mylène Farmer et Claude Nougaro. Retour sur le singulier parcours d'Yvan Cassard, jalonné par les tubes, mais guidé surtout par l'amour profond de la musique. On en parle ensemble dans quelques instants, juste le temps d'une petite promenade en poney.
Je le promets, nous partirons sans bien savoir où nous irons. Je vois déjà dans ses brancards mon beau cheval prêt au départ. Votre cocher, mesdames, vous attend.
Jamais cocher ne fut aussi charmant.
Pardon, pardon, petit poney, qui trotte dans les genêts, dès l'aube du jour qui naît.
Qui trotte de l'aventure, qui trotte de l'étranger.
Pardon, au bruit joyeux des grelots, dont le joli trémolo s'envole à tous les échos.
Qui trotte de l'aventure, qui trotte de l'étranger.
Pardon. Adieu le vieux donjon cerné de lierre et de pigeons.
Adieu le presbytère ou le curé, dit son pater.
Adieu,
lisons.
Adieu,
lisons.
Compagne des belles saisons. Partons en quête de vrai bonheur. L'amour chante dans nos cœurs. Au pas d'emporter mon cœur.
Et trotte vers l'aventure.
Emporte-nous vers le bonheur. Comme il fait doux, comme il fait beau, nous camperons au bord de l'eau.
Au bord de l'eau.
Et pour dîner, nous pêcherons une friture de goujon.
De goujon. De son œil de poil, la lune enfin nous animera. Le chant de Saint-Poinot, le parfum nous
endormira. Pour se l'oreiller. Déjà, je me sens tout ensommeillé.
Je vois cocher qu'il faut vous réveiller.
Pardon, pas d'un petit poney qui trotte dans les genêts dès l'aube du jour qui naît.
Il trotte vers l'aventure, il trotte de l'étranger.
Pardon, au bruit joyeux des grelots, dont le joli trémolo s'envole à tous les échos.
Il trotte vers l'aventure, il trotte dans les grelots.
Pardon, adieu le vieux donjon cerné de lierre et de pigeon.
Adieu le presbytère ou le curé, dit mon pater.
Adieu,
lisons.
Adieu,
suçons.
Compagne des belles saisons. Pardon, en quête de vrai bonheur. L'amour chante dans nos cœurs. Au pas d'emporter mon cœur.
Et trotte vers l'aventure.
Emporte-nous vers le bonheur. Partons. Au pas d'un petit poney.
Oh, qu'il est joli ce petit trio. Il figure, vous le savez, dans l'opérette Chanson Gitane, la dernière opérette de Maurice Yvain, créée juste après la guerre en 46 à la Gaîté Lyrique. Et là, vous avez reconnu probablement les voix d'André Dassary, mais aussi de Gismé et Maria Murano. Donc, dans cette petit ensemble d'un musicien qu'on devrait voir encore plus souvent à l'affiche.
Thank you.
dernière des variations rococo de Tchaïkovski par Nemanja Radulovic avec un petit ensemble et un piano, un arrangement très particulier réalisé par, justement, tiens, par mon invité d'aujourd'hui.
Étonnez-moi Benoît, Benoît Dutertre, France Musique.
Et oui, car mon invité d'aujourd'hui, c'est un musicien raffiné, fort de tout le bagage classique, on vient de l'entendre. Mais les hasards de la vie l'ont fait rencontrer le monde de la chanson et de la variété, où il a remis à l'honneur un savoir-faire symphonique un peu oublié depuis les grandes heures du studio d'enregistrement. De Johnny à Pagny et de Mylène à Roberto, tous ont fait appel à son savoir-faire, ce qui ne l'empêche pas de revenir parfois à ses sources classiques. J'ai le plaisir d'accueillir ce matin Yvan Cassard.
Jet set.
Bonjour Yvan Cassard.
Bonjour Benoît.
Et merci d'être avec nous ce matin. J'avais envie de commencer avec Claude Nougaro parce que vous qui avez joué à peu près avec toutes les plus grandes stars de la chanson française, vous avez dit dans une interview que quand même pour vous, votre plus grande expérience, c'était Claude Nougaro.
Oui, c'est ma grande histoire d'amour, bien sûr. J'ai eu la chance, je suis gâté avec les chanteurs, j'avoue que je me pince souvent, mais je suis très très gâté. Mais Claude, c'était une expérience inoubliable parce que c'était un chanteur dont j'étais fan quand j'étais petit. C'est important. Et en plus,
un peu plus que Johnny, un peu plus
oui,
que Mylène.
Johnny, ça a été un coup de cœur absolu dans ma vie, mais tardivement. Moi, je suis arrivé, j'ai connu Johnny en 98, c'est-à-dire j'avais déjà 32 ans. Ouais. Donc c'est autre chose. Claude à 15 ans, à 16 ans, j'étais à l'Opéra de Rennes. Son père faisait ses adieux parce que son père était baryton et il était venu pour un concert d'adieu et le fils faisait la deuxième partie. J'étais à l'Opéra ce jour-là et j'étais dans l'orchestre en première partie à jouer de la clarinette et j'ai entendu Claude Nougaro en deuxième partie. C'est des choses importantes. Et aussi, j'ai fait des chansons avec Claude. J'ai composé.
Ouais. Ça, c'est un titre que vous avez écrit.
Oui, absolument, arrangé. Bon, je sais pas si je le prends très bien. Vous commencez avec un titre de Claude Nougaro, mais qui s'appelle Jet Set. Donc, est-ce que vous me voyez comme un jet setter ou un peu showbiz?
C'est pas bon, ça.
Je vais peut-être partir. Voilà. C'est pas bon, hein. Attention. Je vais finir par me vexer. Non, mais c'est vrai que le fait d'avoir créer des chansons à mon modeste niveau avec lui, d'avoir collaboré, de vivre ces moments nocturnes, parce que c'était quand même un noctambule, à dire ah oui, non, j'aime cette phrase, ça c'est des immenses souvenirs, bien sûr.
Mais en fait, la vraie raison pour laquelle j'ai choisi ce morceau, c'est parce que c'est une musique à 5 temps.
C'est vrai.
Les auditeurs l'auront pas forcément remarqué.
On était dans la construction de cet album. Ce jeu de piste, c'était notre première grande collaboration. Et on voulait un album très fourni avec toutes les influences majeures de Claude, faire un retour au Brésil, à l'Afrique, au jazz. Et il adorait Brubeck. Évidemment, tout le monde connaît À bout de souffle sur le Blue Rondo à la Torque. Et on avait parlé de Take Five et en disant, oh, ça serait bien de faire un 5 temps, quelque chose d'haletant, etc. Et du coup, cette chanson m'est venue comme ça un soir de concert, je sortais de Metz avec Mylène Farmer et on sortait de là pour rejoindre l'aéroport, prendre un jet et j'en étais dans une voiture avec plein de gens, des gardes et tout ça. Et puis, je sais pas, d'un coup, j'étais derrière dans la voiture et ça, cette mélodie, je me dis, ça, c'est trop bien. Et puis, j'ai fait ça, je suis arrivé à la maison, une heure et demie plus tard, j'ai tout de suite enregistré la chanson et le lendemain matin, je lui ai fait écouter ça. C'est rigolo.
Mais une autre raison aussi, c'est que, au fond, je peux pas dire que vous êtes à contre-emploi ici, mais le grand public vous connaît vraiment comme l'homme du grand symphonique, des immenses concerts, etc. Et au fond, là, vous êtes dans cette chanson que vous avez en plus écrite, vous êtes dans un registre beaucoup plus intimiste qui vous plaît sans doute autant en réalité.
J'ai coutume de dire que les gens ne connaissent de moi que ce qui est le plus connu. Et l'équation des grands shows, des grands stades, des grands spectacles et de mon physique un tout petit peu voluptueux fait que d'un coup, quand on pense à moi, on pense plus à quelque chose de grand et voilà, qui ouvre. En fait, je suis un nostalgique et en fait, j'aime la musique lente et c'est ce que j'écoute. Et l'intimité est finalement la chose qui m'intéresse le plus. Mais c'est comme ça.
Néanmoins, juste encore un mot avant de remonter dans vos souvenirs. Néanmoins, même avec Claude Nougaro, vous aviez commencé justement par le rejoindre dans le domaine plus symphonique.
Oui, parce qu'on s'est rencontrés à l'occasion d'une émission à Toulouse de Jacques Chancel qui s'appelait Les Quatre Saisons. Et il m'avait dit, écoute, il faut qu'on fasse un petit galop d'essai ensemble pour voir si on s'entend bien. Donc j'ai passé mon examen avec Toulouse en version symphonique et Vive Violence, une chanson de Richard Galliano qu'on a fait dans cette émission. Il a fait, bon, t'es pas si mauvais, on va essayer, on verra bien.
Voilà. Et ben voilà, on va en reparler, on va parler de beaucoup d'autres choses puisque vous nous faites le plaisir d'être là en commençant par remonter jusqu'aux tendres années de votre enfance.
I
Cassar, oui, vous aviez, je crois, un an quand ce disque est sorti en 1967. D'ailleurs, je ne sais pas si vous écoutiez les Beatles dans votre famille quand vous étiez petit.
Non, parce que mes parents étaient plus portés sur la chanson française. Donc voilà. Mais ça ne m'empêchait pas d'écouter de la musique anglaise, de la pop, de la musique américaine, évidemment. Mais
dites-nous ce morceau-là.
Il est tellement précurseur, il est tellement important dans l'idée du mélange. Moi, ce qui me passionne aussi, c'est de mélanger toutes ces cultures et de mélanger de cette pop avec cet orchestre, cette densité.
Ça,
Et d'oser ça, c'est oser d'abord, c'est ça qui est formidable. Parce que il faut être le premier, quoi. Et c'est là, je dois dire que c'est un coup de maître.
Hein. Enfin, n'empêche que vos parents donc étaient musiciens, au moins à leurs heures. Hein, ils jouaient, voilà.
Mon père était batteur. Ouais.
Et ça a été pour vous une première façon d'entendre la
musique.
C'est
surtout pour eux que ça a été une révélation, parce que j'étais un garçon un petit peu, un enfant un peu tourmenté, et un peu, je tenais pas en place. Ils se sont aperçus que quand j'écoutais de la musique, j'étais calme. Donc en fait, c'était pour eux, c'était une solution de facilité. Ils m'ont collé à la musique, ils m'ont fait écouter des disques, et puis ouais, c'est comme ça que ça s'est passé, parce qu'effectivement, ça me plaisait.
Et c'est comme ça que vous êtes entré au Conservatoire de Rennes, que vous avez été clarinettiste avant d'être pianiste. Hein.
Absolument.
C'est votre instrument, en fait, on peut dire, au départ. Hein.
Absolument. C'est toujours compliqué. L'éducation musicale des conservatoires, des fois, c'est un petit peu tordu. Et on m'a trouvé trop vieux alors que j'avais 9 ans pour commencer le piano. Et comme mon oncle jouait de la clarinette, je trouvais ça bien. Je me suis mis à la clarinette, vous voyez. Mais donc c'est assez étrange.
Vous avez été marqué par les professeurs, hein, je pense à Bruno Fabius. C'est important, les professeurs.
C'est à Nantes. Il a bouleversé ma vie parce que, vous savez, dans une vie de jeunes musiciens, on fait des rencontres majeures. Des gens qui vous apprennent à jouer, mais qui vous ouvrent l'esprit et surtout qui vous construisent. C'est-à-dire qu'au-delà du fait d'apprendre à jouer, ils vous apprennent à travailler, à progresser. Et Bruno et Fabius, c'est vraiment une rencontre majeure dans ma vie parce que c'était le professeur de piano du Conservatoire de Nantes. Et vraiment, il m'a appris comment aborder une œuvre, comment progresser au piano en réfléchissant. Il me disait toujours, travaille un prélude et fugue, n'en travaille pas 20, mais apprends avec un prélude et fugue et après tu sauras travailler les 19 autres. Et ça c'était capital. Et dans ma vie, il a été majeur jusqu'à ma rencontre avec Jean Körner, qui était le professeur d'accompagnement au Conservatoire de Paris. C'était la deuxième grande rencontre, quelqu'un qui me fasse confiance, qui me dise, mais t'es un peu un mec bizarre, mais t'aimes toutes les musiques, mais c'est pas grave, justement. Tes qualités naturelles, tu vas les utiliser, tu vas faire autre chose.
Et quand vous êtes entré au Conservatoire de Paris, vous aviez une idée de ce qu'allait être votre vie de musicien ?
Pas du tout. Je suis rentré d'abord chez Jean Körner et puis après chez Zapolsky en classe de chef de chant. Comme j'étais un Rennais, donc un provincial, je trouve qu'on a des grandes chances quand on est en province, c'est que comme il y a un peu moins de monde, s'offre à vous des expériences musicales et comme grâce à ça, j'ai fait des musiques pour le théâtre, j'ai été chef de chant à l'opéra, en même temps j'étais clarinettiste, donc j'étais clarinettiste dans l'orchestre à l'occasion. Enfin, on vit des choses, on a des... Et du coup, je savais pas trop... En fait, on m'aurait demandé, j'aurais dit, je vais peut-être être chef de chant. Et puis voilà, à l'opéra, enfin, c'est un petit peu... Mon destin a un peu changé sur la route.
Avant de passer à vos propres morceaux, à vos propres musiques, qu'on va écouter, bien sûr, j'ai pris un petit extrait d'un quelqu'un que j'ai beaucoup, beaucoup aimé, un compositeur de musique de film, qui a été votre professeur, je crois. C'était Pierre Janssen.
J'adore Pierre Janssen.
C'est vrai ?
Oui, parce que... Vous savez, nous autres qui écrivons pour l'orchestre, mais ou pour la chanson, c'est une connaissance de l'orchestre évidemment classique, mais aussi il y a quelque chose dans la facilité et dans l'efficacité de l'écriture qui nous est imposé, parce qu'on fait des séances, que le temps c'est de l'argent et qu'il faut que ça sonne très bien et tout de suite. Voilà. Et Pierre, il avait cette extraordinaire double culture de l'immense musicien compositeur et orchestrateur qu'il était, mais aussi de l'homme de cinéma, de musique de cinéma, ce qui fait que
avec Chabrol,
voilà, avec Chabrol. Hein, voilà. Et du coup, c'est pour ça que je n'ai pas voulu faire par exemple la classe d'orchestration au Conservatoire de Paris, mais que je suis allé le voir à l'École Normale parce que c'était la personne qu'il me fallait pour apprendre, pour être concret. Et c'était un sublime musicien.
Puis un personnage haut en couleur, sympathique.
Lui et sa femme, c'était extraordinaire.
On écoute sa musique pour le boucher de Chabrol, justement. Chabrol, Le Boucher Musique de Pierre Janssen. Vous avez deviné, Yvan Cassar, que c'était 1970.
Ah, c'est l'esthétique est tellement particulière. C'est cet âge d'or de la musique française pour sur le cinéma qui mélange le jazz, les basses électriques piquées et l'univers symphonique. C'est génial.
En même temps, c'est tout près de la musique d'avant-garde, d'après-guerre que Janssen avait pratiquée.
Oui. Il n'y a pas de limite dans la musique de film, hein. C'est ça qui est intéressant.
Ça vous a jamais attiré, vous, l'école Boulez, Xenakis et tout ça, non?
Non, il me faut des accords, moi. Je suis passéiste, c'est terrible. Même s'ils sont un petit peu tordus, voire même très tordus, j'ai aucun problème avec ça, mais il en faut quand même un peu.
Il vous en faut un peu. Alors, vous avez dit à l'instant l'avantage que c'était par certains côtés d'avoir grandi en province. Et de fait, tout en menant vos études à Paris, vous avez finalement commencé vraiment votre métier là-bas, notamment à travers un festival à Rennes important qui s'appelait Les Tombées de la Nuit.
Exactement. Ça a été ma première expérience avec des chanteurs et un spectacle. La première fois où je dirigeais un orchestre, où j'avais comme ça trois chanteurs bretons et puis il fallait faire des arrangements. Et puis voilà. Parce que après, j'ai fait pendant des années et des années, mais c'était la première chance. Et c'est très précieux quand on est dans une ville comme ça, qu'on vous donne cette chance. Parce que ce qui est dur dans ce métier, c'est de commencer, quoi. La confiance des gens. Et à tout niveau, parce que moi, tous les jours, des gens ne me font pas encore confiance. Je suis obligé de prouver. Parce qu'ils m'ont entendu dans une esthétique et pas dans une autre, et ils se disent non, il va pas ça. Et ça me va d'ailleurs, c'est bien de prouver, et ça rend jeune. Il faut continuer à travailler et à prouver. Mais c'est vrai qu'étant en province, on a de la chance.
Mélène Favennec, c'était une de ces
artistes. Mélène Favennec, grande amitié. J'ai fait un album génial que j'adore. Voilà, c'est plein de défauts tout ça, mais c'était autour d'un quatuor à cordes, un piano, une harpe. Enfin, vous voyez déjà un espèce d'une esthétique très née avec un quatuor à cordes. Enfin, vous voyez, ça partait dans tous les sens à l'époque.
Mais votre carrière d'arrangeur, on peut dire, elle a vraiment démarré alors que vous étiez pianiste de bar à Courchevel.
C'est vrai. Vous êtes bien renseigné, dites donc, mais quel coquin.
Qu'est-ce que vous faisiez comme pianiste de bar à Courchevel?
Parce que j'étais au conservatoire et j'étais à Paris. Et en fait, moi, j'aime bien l'action, j'aime bien faire, travailler, jouer. Et en fait, j'aimais bien aller me payer des vacances Exactement. Donc, j'avais trouvé un hôtel qui était vraiment très sympa, où il y a juste à jouer le soir et le reste du temps, vous pouvez aller faire du ski toute la journée. Mais comme j'étais déjà boulimique et que je voulais jamais faire les choses simplement, on était deux et je venais avec deux voitures complètes, une sono, des synthétiseurs, etc. Enfin, parce que je voyais ça comme même aussi un champ de pratique et il n'était pas question de faire ça en...
Juste faire une petite ambiance pour l'apéro.
Non,
à l'hôtel.
Pas grave, les gens ils écoutent pas, mais il faut en profiter pour tenter des choses. Ça a été important pour moi parce que un jour a débarqué dans ce bar à Courchevel une chanteuse qui s'appelait Réjeanne Perry et qui était de Moutier. Elle était venue avec ses parents et il se trouvait qu'elle sortait d'une expérience de choriste avec Michel Legrand. Donc elle arrive dans ce bar et puis elle me dit est-ce que vous connaissez quelques chansons? Et moi j'adorais Legrand et donc je lui dis bah oui, pas de problème. Et on a fait comme ça toute la soirée. On a commencé par une, par deux, puis trois, puis cinq, puis dix chansons et puis voilà. Et on s'est rencontrés et puis on s'est suivis un petit peu, puis abandonnés. Et puis un jour, alors que j'étais dans le métro, je découvre dans le Pariscope qu'elle remplaçait Morane pour Starmania à Marigny. Et je suis allé la voir, j'ai pris un ticket, puis à la fin, je l'ai attendu à la fin du spectacle en disant c'est incroyable. Et voilà, on s'est retrouvés. Et puis de ce fait, elle m'a dit je viens de signer un deal avec la Fnac Musique. Est-ce que tu voudrais qu'on travaille un petit peu sur les chansons?
Voilà, et c'est parti comme ça.
Et c'est parti comme ça.
Avec une chanson qui a bien marché, Cœur en altitude.
Oui. C'était. Après, me demandez pas d'être objectif sur ce premier album, parce que voilà.
En tout cas, c'est Cassard, première manière.
Mon Dieu, c'est pas sympa ça.
Largué solitude, cœur en altitude, en apesanteur, prend de la hauteur, absolue douceur, loin de la fureur, j'accorde les cils de l'amour sublime.
Réjeanne Péry, Cœur en altitude, c'était en 1991 avec vous, donc Yvan Cassar. Elle nous a quitté d'ailleurs très jeune,
ouais,
en 2003,
c'est,
hein, Réjeanne Péry.
Très triste, c'était une femme formidable.
Mais moi j'aime bien cet album, vous n'avez pas l'air convaincu.
C'est mon premier, donc je ne vois que tous les défauts, c'est normal. Voilà, mais je ne regrette pas cette expérience, c'est une chance qui m'a été donnée.
Et qui a déclenché mille choses, parce que ça s'est passé à Paris dans un studio qui s'appelait le studio Méga, c'est ça?
Exactement, et c'est vrai que c'était un studio un peu à la mode, parce que c'est là que Mylène faisait tous ses disques avec Laurent Boutonnat.
Mylène Farmer.
C'est vrai que cet album, il a été source de plein de rencontres et plein de choses après, parce que j'ai rencontré Laurent Boutonnat.
Et quoi, il avait entendu votre enregistrement
et c'était l'ingénieur du son, il s'est dit tiens, il y a un gamin là qui fait des trucs improbables à côté, il sait rien, mais quand même, il y a d'autres choses qu'il sait, parce que il faut aussi se repositionner dans le monde de la chanson à cette époque-là. On est post années 80 avec que des synthés.
Il n'y a plus de grands arrangements
symphoniques. Il n'y a plus de cordes, il n'y a plus de piano, tout ça. On n'est pas dans l'acoustique.
François Robert, c'est fini. Jean-Michel Defay, c'est fini.
Voilà, donc du coup, le fait d'arriver, moi, avec une culture où j'étais un peu jeune en chanson et dans la production sonore, mais par contre un peu plus armé dans l'acoustique et dans l'écriture, ça surprenait. Et en même temps, j'ai rencontré Laurent et j'ai fait avec lui la musique de Giorgino, son premier film, ce qui a déclenché ma rencontre avec Mylène par la suite. Et parallèlement à ça, il y avait aussi Vangelis qui travaillait dans le studio d'à côté de temps en temps. Et du coup, j'ai rencontré Vangelis. On dit en français, mais c'est Vangelis. Et pareil, il faisait Colomb, et puis j'ai commencé à travailler avec lui. Et après, il m'a engagé pendant 3 ou 4 ans. Donc, curieusement, cet album a été vraiment une première étape importante.
Voilà. Alors, Mylène Farmer, vous vous rappelez la première fois que vous avez parlé avec elle?
J'étais dans le studio, entre les studios, il y avait une petite pièce, et on s'est dit bonjour entre le studio A et le studio B.
Voilà,
tout simplement.
Elle était gentille.
Mais tout à fait. Faut arrêter avec ces idées totalement préconçues. C'est une femme absolument charmante et tout à fait ouverte. Enfin, il n'y a pas de problème.
Elle était déjà une superstar, hein.
C'était la grande star.
95, 96.
Ouais, bien sûr. Non, bien sûr. C'était une grande star. Donc... J'étais impressionné, mais elle aussi, parce que dans la relation, au début, elle était un peu timide. Mais j'ai d'abord travaillé pour Laurent avant de travailler pour elle.
Voilà, qui était vraiment son bras droit musical, Laurent Boutonnat.
Qui faisait les chansons, qui les produisait, etc.
Et c'est lui donc et elle qui vous ont proposé de devenir le musicien des grandes tournées de Mylène Farmer.
Oui, c'est-à-dire qu'elle avait fait un spectacle à Bercy, puis elle avait arrêté pendant longtemps, et puis ils ont remonté en 96. Cette tournée, et Laurent m'a proposé d'être le directeur musical. Et ça a été évidemment une chance parce que c'est des expériences qu'on n'a pas l'habitude de vivre, qui sont assez exceptionnelles parce que c'est beaucoup de budget, donc c'est des grandes équipes, c'est des shows à l'américaine. C'est un peu simple de dire ça. Maintenant, on est un peu plus habitué à ces shows, mais à l'époque, c'était un peu plus exceptionnel. Donc, ça m'a formé à travailler avec beaucoup de gens, des équipes, coordonner des choses. Tous les musiciens étaient américains, donc même pour moi, c'était un stress parce que mon anglais n'était pas sublime. Donc, j'ai pris 3 mois de cours d'anglais en courant. Voilà. Mais c'était très formateur.
Vous pouviez déjà apporter votre touche personnelle, ou alors il s'agissait surtout de faire les chansons de Mylène Farmer telles qu'elles avaient été conçues au départ?
Déjà, il était évident qu'il fallait faire les chansons de manière, il faut toujours faire les chansons, voilà. Mais comme on se connaissait bien déjà avec Laurent, c'était l'occasion aussi de développer certains aspects qui m'étaient chers, et le travail avec le musicien, parce que c'est ça qui est, quand on est directeur musical et arrangeur et pour un show, c'est pas pareil que de faire un disque. Il y a le rapport au musicien, à qui joue quoi, comment, avec quelle intention, quel son, quel instrument, tout ça. Enfin, il y a toute une problématique qui se pose et qui n'a rien à voir avec le fait d'être en studio. On peut choisir et passer 5 heures sur la caisse claire et sur le son, et on refait. Voilà. Et donc, la musique de Laurent, elle était très novatrice, parce qu'elle était très, très, très orientée sur la programmation, sur l'électronique, etc. Donc, moi, ma tâche, c'était d'abord de faire une interface entre deux et les musiciens, et de traduire ça, et d'avoir un rendu, et dans la manière de jouer, parce que c'est très important, l'interprétation, parce parce que c'est de la chanson, c'est pareil, qu'il suffit de faire punta avec un clic, mais c'est pas aussi simple que ça, et bien sûr, et puis le rapport de sonore, de production. Donc, et puis évidemment, après, ça a duré pendant 20 ans, donc sur 20 ans, on a développé des choses, et de petit à petit, ma place a été un peu plus importante, parce qu'il me faisait aussi confiance, il savait que je pouvais faire les interludes, j'ai travaillé les transitions, les développements, etc.
Une histoire de fidélité en amitié,
tout à fait. Mais j'ai la chance de presque tous les artistes avec lesquels j'ai travaillé. C'est des histoires de long terme.
C'est vrai. Avec Alania aujourd'hui.
Voilà, avec Roberto, avec Claude, ça a été long, avec Johnny, ça a été long, avec Florent Pagny. Enfin, tous les gens. J'ai vécu de longues choses, et ça, c'est intéressant parce qu'on apprend à mieux se connaître, et donc du coup, on a un peu moins peur du chanteur. La collaboration se développe. C'est ça qui est intéressant.
Alors, on va écouter un petit mix de deux extraits de votre tournée, justement, Mylène Farmer de 2009. Alors d'abord un grand vieux tube, si j'ose dire, de Mylène, mais remis à votre couleur, si on peut dire, Yvan Cassar, et puis ensuite un duo avec piano, très vu d'ailleurs sur internet, Ainsi soit-je.
Je vais de tes obsessions. Tu t'en fais de tout pour moi. dormir loin de tes chimères. Je sais bien que je mens, je sais bien que j'ai froid de temps. Bulle de chagrin, boule d'incertitude, de nos destins n'est que solitude. Tu dis qu'il faut du temps.
C'est vraiment votre duo avec Mylène Farmer, là, oui, Yvan Cassar. Hein.
Oui, c'était quelque chose que j'aimais vraiment dans ces spectacles, parce que c'est juste, quelle que soit la musique qu'on accompagne, le chanteur, moi j'ai toujours adoré accompagner les chanteurs au piano.
Ouais.
C'est l'émotion et le fait de partager et d'accompagner. Moi j'ai toujours aimé, adoré accompagner. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est que c'est libre. Et avec Mylène, le temps peut se suspendre à un moment donné parce qu'elle s'est arrêtée. Du coup, on entendait au début ou comme ça, où j'improvisais et au milieu de la chanson, je peux me retrouver à faire quelque chose. Il y a une espèce de liberté comme ça que j'aime beaucoup dans ces moments d'intimité. Et puis dans ces gros shows, le fait de faire quelque chose de très resserré
le
comme ça, c'est chouette.
Avec ce qui précède, là, on est vraiment dans la grosse sono et puis tout d'un coup, un piano, une voix.
C'est des très bons moments.
Alors la vidéo, on la trouve facilement, puis c'est aussi l'occasion d'admirer votre magnifique chevelure au piano. Ça date de quand, vos grands cheveux frisés?
Il y a un moment donné, j'ai eu je les ai laissés pousser, puis finalement ça perd. Parce qu'au début, à 20 ans, je les avais pas comme ça. Hein.
Ah bon?
Non, c'est bien plus tard.
Hein. Je
trouvais ça pratique, et puis finalement c'est devenu un look. Alors maintenant c'est le contraire, c'est que je peux plus me les couper. Je dis ça toujours en rigolant parce que
ça demande beaucoup d'entretien.
C'est pénible. En plus, les cheveux frisés longs, c'est pénible. Mais c'est comme ça maintenant. Voilà. C'est une image, ça va.
En même temps, tout le monde vous envie d'avoir autant de beaux cheveux.
J'en ai moins maintenant.
C'est drôle parce qu'on est toujours d'un passage à l'autre. De Régine Perry, vous arrivez à Mylène, et de Mylène, vous arrivez à Johnny. Ce sont comme ça des enchaînements naturels.
C'est un peu, malgré moi, tout s'est fait un peu comme ça, parce que j'étais un peu loin de la Tosca de Puccini que je faisais travailler quand j'avais 18 ans, vous voyez. Mais ça me plaisait parce que j'aimais partager avec les équipes et produire, c'était vraiment bien. Et en fait, l'histoire de ce show de 96, c'est que les musiciens, c'était donc des musiciens, une équipe américaine qu'on avait casté avec Laurent Boutonnat. Le batteur était un tout jeune batteur qui avait fait très peu de choses à l'époque, qui s'appelle Abraham Laboriel Jr. Son père est une légende de la basse de studio américaine. Hein, c'est vraiment, il fait partie des 10 bassistes qui ont le plus enregistré. Étant très porté sur la musique soul américaine West Coast quand j'étais ado, je connaissais très très bien son père. Et j'ai vu arriver ce jeune garçon qui avait 18 ans. Et le principe de ces équipes à l'américaine, on fait des auditions et on fait passer 20 batteurs. Là-bas, il n'y a pas de problème. J'ai toujours d'ailleurs regretté beaucoup ça en France, qu'on ne fasse pas ça, parce qu'on ne donne pas la chance. On peut voir ça comme une offense ou un problème d'ego, mais moi, je le vois plus comme une chance, c'est-à-dire qu'à tout moment, même si on n'est pas connu, on fait l'audition, si on est meilleur, eh ben on a le job. Et ça, je trouve ça vraiment génial. Et la preuve, là, il y avait ce jour-là des batteurs très très confirmés, et arrivé ce jeune
Abraham Laboriel.
Voilà, et on s'est dit, mais qui c'est ce batteur, c'est dingue. Et Il y avait aussi un guitariste qui s'appelait Brian Ray. Et ces deux musiciens se sont retrouvés à être embauchés pour la tournée de Johnny pour les Stades de France, parce que Johnny les avait vus avec Mylène en 96, en 98. Une chose entraînant une autre, eh bien, on a fini par m'appeler pour la direction du Stade de France de Johnny Hallyday.
Vous aviez déjà joué un peu avec lui, mais de façon...
Pas du tout, jamais. Je le confesse très volontiers, d'ailleurs, parce que je lui ai dit, je connaissais très mal. Très mal. Et du reste, quand on m'a proposé ce job, j'ai d'abord refusé. Sans doute pas un peu par peur, mais aussi en me disant, je suis pas l'homme de la situation. Parce que moi, le rock, c'est pas mon truc. J'aime ça, mais j'aime les rock. Et je connaissais assez mal Johnny et je l'avais jamais vu en concert, surtout, et c'était ça la faute.
Bien sûr. Mais comment ça s'est passé, le fait de, entre être un des collaborateurs du spectacle, important certes, mais et devenir un proche de Johnny au point d'écrire pour lui des chansons,
Ça a été très compliqué au début parce que je l'ai rencontré la veille des répétitions à Los Angeles et voilà, il se disait c'est qui, il m'a vu arriver, il m'a dit mais enfin je pense que je correspond, voilà, et je j'avais pas le physique de l'emploi, vous voyez ce que je veux dire.
Voilà,
j'étais sans doute un peu trop classique dans mon apparence et pas supra healthy, mais donc voilà, au début c'était un peu bizarre et nos trois premières semaines de répétition à Los Angeles se sont pas très bien passées parce qu'il était pas content et je pense que le changement c'était bizarre, enfin ça a été un process assez complexe, et mais finalement à un moment il a aussi je pense voulu voir ce que j'avais dans le ventre, il m'a poussé à bout à tout point de vue, la fatigue, les pressions, etc., pour voir si j'encaisserais, parce que lui-même avait très peur parce que c'était un gros en... maintenant ça semble normal de faire un stade, mais enfin à l'époque personne
50 choristes.
Voilà. À l'époque, personne n'avait fait aucun artiste français n'avait fait un gros stade comme ça. Donc, il avait fait le parc, mais il n'avait pas fait. Voilà, là, on était encore une échelle au-dessus. Donc, il m'a mis une pression. Et puis, finalement, j'ai passé le cap. Je lui ai montré un peu de mon caractère. Et sur cette confiance-là, s'est bâtie une relation très saine et, dans le travail. Et puis, voilà.
Côté généreux, voilà. Confiant. Ouais,
il m'a mis un enfer au début. Après, autant il m'a rendu, donné, et puis du coup j'étais le petit nouveau, donc du coup ça m'a éclairé, voilà, il a parlé de moi partout, j'avais des cheveux, donc d'un coup il m'a appelé Mozart, parce que c'était facile, comme j'étais classique et j'avais des cheveux, il s'est dit allez hop, et donc du coup ça, vous voyez, ça va très vite, et puis quand on est en France et qu'on travaille avec Johnny Hallyday, forcément en bien ou en mal, je sais pas, mais en tout cas ça vous expose, ça c'est sûr.
Derrière les barreaux, pour quelques mots qu'il pensait si fort. Dehors, oui, dehors il fait chaud, et des milliers d'oiseaux s'envolent, sans effort. La loi du plus fort, Diego, lui volant sa tête derrière sa fenêtre, s'endort peut-être. Dans sa tête
derrière sa fenêtre, s'endort peut-être. Mais quel est ce pays où frappe la nuit la loi du plus fort? Déjà mort, peut-être.
Voilà votre rencontre avec Johnny Hallyday, votre amitié qui a duré jusqu'à sa disparition.
Ah oui, jusqu'au bout. Oui. Non, c'était une très très belle histoire d'amitié et de musique.
Alors, vous êtes devenu, avec ces expériences, Mylène Farmer et Johnny Hallyday et un certain nombre d'autres, vraiment l'homme associé aux cordes qu'on ajoute, si on peut dire, dans la chanson française, quand c'est on veut redonner une couleur symphonique. Tout le monde est venu vous demander des cordes.
Je ne sais pas si c'est
cordes,
bien ou pas, d'ailleurs, parce que c'est comme ça. Je ne regrette aucun.
Au moins, ça a redonné une place aux vrais arrangements dans la chanson, qui avait presque disparu, comme vous le disiez tout à l'heure.
Tout à fait, tout à fait.
Donc, Linda Lemay, Patricia Cass, Obispo, Aznavour, tout le monde est venu vous chercher et vous a demandé d'ajouter des pupilles de cordes.
Oui, parce que quand on fait ce que je vous disais tout à l'heure, Johnny Hallyday s'est tellement exposé que du coup, tout le monde vient chanter avec lui, faire des duos, vous rencontrez plein de gens. Et là, donc du coup, c'est voilà. Et moi, c'est vrai que ce que j'ai beaucoup aimé dans ce métier d'arrangeur, moi qui suis pas toujours très confiant quand il faut écrire, et je me pose toujours des questions mille fois, genre ah non ça va pas, et tant que je suis pas coincé par la deadline de l'enregistrement et de je refais, j'aimais cette idée d'écrire quelque chose qui soit tout de suite enregistré, tout de suite interprété. Je pense que c'est sans doute pour ça que pendant 20 ans j'ai fait autant de chansons et d'arrangements et moins d'écriture, ou moins là, parce que je me laissais happer avec gourmandise par ce et 1 et 2 et 3, et j'aimais vivre le studio, écrire, enregistrer le lendemain. Voilà, je n'aurais pas eu la patience. J'admire les compositeurs qui composent pendant 2 ans en se disant peut-être que mon œuvre sera jouée dans 2 ans et demi avec 12 musiciens. Enfin, je trouve ça absolument admirable et je suis pas sûr d'avoir cette abnégation.
Vous y pensez pas un petit peu quand même? Vous écrivez pas quelques symphonies de...
J'écris des choses de temps en temps et puis là maintenant je vais m'y mettre parce que j'ai plus de 50 ans et donc il est temps de faire mes projets. Mais je me suis écarté de ce chemin, mais grâce à la variété de mes collaborations, je n'ai jamais vécu de frustration. J'ai vu beaucoup de musiciens et beaucoup d'arrangeurs et tout ça qui arrivaient à 50 ans, 60 ans, étaient aigris, en avaient marre parce que c'est pas toujours un métier, il faut le dire, un métier facile, faut refaire, prouver,
plaire.
Enfin, donc, et moi j'ai été gâté parce que les artistes d'un point de vue général m'ont fait confiance et je me suis fait très très peu refusé d'arrangement. Je suis aussi d'une époque où j'écrivais, où j'arrivais en studio. On faisait pas 17 maquettes avec des machines avant d'arriver en studio. J'ai eu ce bonheur, voilà. Et donc du coup, à travers tous ces styles, je me suis éclaté. J'allais dire, du coup, j'ai continué sans me poser trop de questions.
Et vous avez aussi quand même créé, on peut dire, votre style d'arrangeur. Je parlais des cordes, mais j'irais même plus l'ensemble piano-cordes. C'est vraiment souvent au cœur de votre travail.
Oui, parce que comme je suis pianiste et que j'aime, voilà, c'est le mélange de mes passions.
Voilà, bien sûr. Oui. Vous avez fait un certain nombre quand même de musique de cinéma dans toute cette période.
Un peu.
Vous avez participé aux Visiteurs, vous avez fait l'Odyssée de l'espèce, qui était peut-être plus proche de vos aspirations.
Oui, ça profondes. c'est un disque que j'aime bien, parce que quand on m'a proposé ce projet, je savais que ça allait être un documentaire. Je me disais, ça va me donner l'occasion de... Moi, je suis un fan absolu de world music et de mélange, que ça soit la pop ou le classique, que ça soit la musique du monde, j'aime. Et baigné de Peter Gabriel, et marqué par mes écoutes de Peter Gabriel, je me disais qu'avec ce documentaire, c'était l'occasion de provoquer des collaborations avec plein de chanteurs, des maîtres de musique traditionnelle. Et je m'étais dit, je vais être frustré par le documentaire, parce que ça sera des chansons de 30 secondes, et il faut que je fasse un disque. Du coup, j'ai développé, j'ai réussi grâce à ça à faire un disque.
Et donc, votre première symphonie, elle sera en partie world music, en partie elle classique.
Elle sera dans le mélange, parce que déjà je suis breton et que je suis né avec la musique celtique. Bien sûr, et que de la musique celtique, je suis passé à la musique africaine, à la musique indienne. Voilà, c'est comme ça.
Alors, j'ai retrouvé dans toutes vos expériences, si nombreuses qu'on peut malheureusement pas toutes faire entendre, Yvan Cassar, une chose qui m'a bien amusé quand même, parce que c'est un côté un peu kitsch, mais c'est assez extraordinaire. C'est
on
justement
passe notre examen ici.
Ce travail avec moi, je dis Vangelis,
à la française.
Quand j'avais 15 ans, c'était un peu une star pop. Tout le monde avait des albums de Vangelis. Hein, c'était l'époque de Klaus Schulze, de tous ces trucs un peu expérimentaux. Alors lui, c'était. En fait, je connaissais pas très bien. Alors j'ai trouvé ce disque qu'il a fait avec Montserrat Caballé. Et vous étiez là, je crois.
Oui, tout à fait.
C'était quoi cette histoire? C'est un grec, lui. Donc génial.
Il était. Pour ceux qui ne le connaissent pas, à 18 ans, il était déjà extrêmement connu car il faisait partie du groupe Les Aphrodite Child. Et c'est lui qui a fait le tube mondial Rain and Tears. Et donc il a commencé fort, si j'ose dire. Et puis petit à petit il a quitté ce groupe parce qu'il avait trop de personnalité et il a fait sa musique et il a développé ce genre de musique instrumentale qui est assez peu courant. Et on est dans une époque où ça n'existait pas vraiment une grande star comme ça. Et entre les mélodies
à l'orgue beaucoup
D'abord, et puis après les synthétiseurs quoi. Il a commencé avec l'orgue et moi j'ai beaucoup aimé ça parce que il y avait un fond de classique, une élégance de la mélodie, une simplicité et un travail sur le spectre sonore parce qu'à l'époque les synthés on n'appuyait pas sur un bouton avec un preset et voilà, c'était vraiment fallait construire avec des synthés analogiques et comme c'est un musicien, un autodidacte de la musique classique en quelque sorte, il a toujours été passionné par la musique classique mais il ne sait pas en faire mais par contre il la faisait avec ses synthés et du coup c'était très intéressant parce que c'était très novateur comme matière.
Enfin, et Montserrat Caballé alors.
Et Montserrat, moi quand je l'ai connu, il abordait un retour vraiment introspectif sur la musique classique. Il voulait vraiment développer ça. Et c'est à cette occasion-là qu'il m'a demandé de travailler avec lui pour développer l'écriture, travailler sur les chants, les chœurs, l'orchestre. Voilà. Il était dans sa période vraiment classique et comme il pouvait pas écrire l'orchestre, il m'a demandé de collaborer. Et donc il a rencontré Montserrat Caballé et donc on a fait pas mal de mélodies, plein de choses. Elle est venue à Athènes dans son studio. Enfin, c'était une femme absolument adorable, délicieuse, d'un enthousiasme toujours à sourire. Enfin, c'était vraiment.
Puis ça l'amusait ce genre d'expérience.
Voilà. Et du coup, on a fait ça, on a travaillé.
C'était donc March With Me, c'était Vangelis avec Montserrat Caballé en 1997 et avec Yvan Cassar qui était donc derrière.
C'est là qu'on voit que c'était un homme qui était bâti parce qu'on avait pour les hymnes quoi. Vangelis, tout le monde le connaît aussi pour les chariots de feu. Voilà, cette espèce de musique comme ça très hymnique, très solennelle, etc. Mais on avait fait aussi des mélodies très 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 simple, très romantique. C'est
oui,
très,
vous, c'est très joli. Vous m'avez dit d'emblée que vous aimiez l'intimisme, les choses douces, et là je vous passe.
Oui, parce que là vous n'arrêtez pas, pas de choisir que des choses qui sont énormes. Donc d'un coup, je me dis mon Dieu.
Non, on en a encore un petit peu à écouter jusqu'à la fin, vous allez voir. En tout cas, Yvan Cassard, pour rester dans le domaine du lyrique, évidemment, là c'était Montserrat Caballé, et quelques années plus tard, eh bien c'est notre cher ami Roberto Alagna avec qui vous allez démarrer. Alors là encore une collaboration amicale. Qui ne s'est pas interrompu depuis 2005.
Hein. Non, encore il y a deux jours, on était au Théâtre des Champs-Élysées ensemble pour défendre notre dernier bébé Caruso. Donc c'est une grande histoire parce que si maintenant j'ai envie encore de plus en plus de revenir à la musique classique et de diriger, tout, c'est vraiment grâce à Roberto et sa confiance. Et il m'a poussé et il m'a porté. Et au début, quand on s'est rencontrés, c'était pour un hommage à Luis Mariano. C'était le premier disque. Il venait d'arriver chez Deutsche Grammophon. Et ça s'est bien passé parce que on avait peur tous les deux parce que c'est pas facile de pas être trop cheesy, trop simple. Voilà, c'était compliqué. Et puis finalement, l'album s'est bien passé.
Ça a été même un très grand succès.
Très gros succès.
Il fallait réorchestrer toutes ces chansons de Francis Lopez qui n'étaient pas orchestrées de façon très intéressante.
Et c'était vraiment très intéressant, mais ça a été pour moi qu'une première étape parce que vers l'album que je trouve majeur dans notre collaboration parce que c'est un Sicilien de terre et c'est vrai que cet album sicilien qu'on a fait ensemble il est cher à notre cœur à tous les deux parce que c'est très original la manière dont il chante ces mélodies traditionnelles qui sont très méconnues parce qu'on ne connaît que les chansons napolitaines et pas les chansons siciliennes et d'avoir une voix aussi belle et qui chante avec vraiment l'accent la précision du style parce qu'il est avant tout sicilien et ça donne une majesté qui est vraiment exceptionnel à ce répertoire. Et moi, j'ai essayé modestement d'accompagner ça en faisant un peu de Morricone par-ci, un peu de symphonique, mais aussi de la musique traditionnelle se mélanger. C'est un bébé qui
vous est particulièrement cher.
Je trouve très réussi. J'en suis très fier parce que c'est une étape dans ce répertoire. Vous voyez, c'est très rare. Je trouve que dans les ténors, on les connaît. Tous les ténors ont enregistré les napolitaines. Tous les ténors, beaucoup de ténors ont enregistré des chansons sud-américaine, que sais-je, mais ça, les chansons siciliennes, personne n'a fait ça, et en tout cas, personne n'a fait ça comme lui.
Passo l'interi notti senza sonno e libidi zito i vai contemplando
Vautou, un extrait donc de l'album sicilien de Roberto Alagna avec Yvan Cassar. D'ailleurs, quand il est venu ici il y a pas très longtemps pour parler de son nouveau disque Caruso, j'ai cru comprendre de toute façon il n'envisage même plus de travailler avec quelqu'un d'autre qu'avec vous, non, même pour le répertoire vraiment classique. Hein.
C'est-à-dire qu'on a développé, on sait avec Mariano, c'était une première étape symphonique. Après sicilien, on a travaillé plus dans une vraie production presque pop. C'est entre les deux, c'est-à-dire un travail sur le micro pour lui, une proximité, un mélange de son, voilà. Et puis petit à petit, on a continué notre chemin. Et puis à un moment donné, on a fait un disque Ma vie est un opéra, un disque plus classique. Puis après, à nouveau, un autre disque napolitain mélangé avec notre son. C'est-à-dire que ce qui est intéressant, c'est ce que je dis souvent dans une collaboration à long terme, on apprend à se connaître, on va plus loin chacun et on est un peu plus naturel et un peu plus ambitieux l'un vis-à-vis de l'autre. On se dit ah ben non, tu peux faire ça, tu as déjà fait ça, mais fais-le, tu peux faire mieux. Et moi le connaissant depuis 15 ans, je n'hésite pas à lui dire ah ben non, t'as mal chanté ou tu peux faire ça mieux quand tu fais ça, etc. J'aurais jamais osé le premier jour et, parce qu'il sait que si je dis ça, je suis d'abord fan et amoureux de sa voix, donc que je dis pas pour dire du mal. Donc du coup il y a une confiance et on va plus loin dans le travail petit à petit, on progresse ensemble, moi j'ai progressé
et
aussi.
Puis, ça correspond peut-être aussi à votre évolution, vous avez peut-être, j'ai le sentiment aujourd'hui, l'envie d'aller aussi plus vers la direction d'orchestre. Et,
oui, ça m'a rattrapé.
Plus que simplement la chanson.
Parce que lui-même aussi, du coup, parce qu'avant je ne dirigeais que mes arrangements, donc là, c'est quand même plus simple à diriger que de la musique classique. Et petit à petit, à force de travailler avec lui, il m'a dit on va faire un concert, j'ai dirigé des orchestres, ça m'a redonné le goût de ma jeunesse. Et ça m'a rappelé à quel point j'aimais la musique classique, quel point elle était en moi. Et maintenant, c'est vrai que j'adore faire ça et j'essaie de développer vraiment le travail autour de l'orchestre, que ça soit de l'orchestre classique, de la direction ou du mélange. Ça me gêne pas, j'aime autant toujours le crossover et d'avoir des chansons pop avec de l'orchestre. Pour moi, il n'y a pas de frontière ni de problème de qualité ou de hiérarchie. Il n'y a pas du tout ça. C'est juste me servir de cette patte magnifique de l'orchestre. Oui, c'est vrai que là, j'ai envie de me concentrer là-dessus.
Vous avez des passions, Yvan Cassar, dans le genre, entre Mahler, Stravinsky, Bruckner, Ravel. Voilà. Vous êtes français, hein, voilà. École française. Voilà. Ouais, enfin, Stravinsky, bon, c'est pas français,
non, mais
c'est parisien.
C'est parisien. Non, je dis souvent, j'ai appris à orchestrer avec Stravinsky avec Ravel. Pourquoi? Aussi parce que je suis pianiste et qu'il y a vraiment une dimension de l'orchestre liée au piano chez ces deux immenses compositeurs qui m'apparaît. Parce que du coup, dans la logique de l'harmonie, chez Bartok, des fois j'aime, mais je comprends pas. Alors que Stravinsky, c'est même dans la complexité ou rythmique ou harmonique, je me retrouve. Et Ravel, dans ce sens de la concision, il n'y a pas de développement superflu. Il y a un sens vraiment du juste chez Ravel. J'aime énormément. Et puis une fantaisie, avec ça. Et d'ailleurs, ça me fait penser à ça. Je me rappelle de cette discussion géniale que j'avais eue avec François Robert, qui est un immense orchestrateur, arrangeur
de Jacques Brel,
entre autres. Parce qu'il me disait, quand j'avais fait l'arrangement de Toulouse, j'avais cité un peu en paraphrase le deuxième mouvement du concerto en sol. Et il me dit, quand on a fait ça, je lui dis, écoute, c'est tout simplement ce deuxième mouvement et ma musique préférée de tout pour tout. Et outre Messian qui trouvait que c'était une très très jolie page de musique, et il me dit bah, de toute manière moi c'est aussi ma page préférée. Il y a une espèce de je pense que chez les arrangeurs il y a une convergence chez Maurice Ravel, on est tous amoureux quoi, et ce concerto en sol en particulier.
Alors Yvan Cassar, comme on va quand même bientôt se quitter, on va boucler une certaine boucle puisqu'on a commencé avec Nougaro et que vous venez de sortir un très bel album, je veux dire, enfin vous venez il y a pas longtemps,
non,
hein,
c'est vrai,
avec Nathalie Dessay qui m'a enchanté.
Merci.
Dans lequel vous reprenez justement et vous réinventez tous les deux un certain nombre de chansons de Claude Nougaro.
Oui, c'était une expérience vraiment folle et passionnante parce que au début, avec Nathalie, on se connaît depuis longtemps parce qu'elle est dans le domaine classique et on s'était croisés et il se trouve que pour l'album posthume de Claude Nougaro, La Note Bleue. À l'époque, Claude m'avait demandé une vocalise en introduction d'Autour de minuit du Standard, et parce qu'ils se connaissaient, ils s'étaient rencontrés, et du coup, il y avait eu un petit trio magique l'espace d'un moment entre Nathalie, Claude et moi. Et donc ça faisait longtemps qu'on avait envie de travailler ensemble. On a commencé sur un projet autour des chansons françaises parce que maintenant elle a envie de devenir vraiment chanteuse et plus et plus soprano. Et puis finalement, on s'est dit, le plus simple, c'est peut-être de faire un album autour de Nougaro. Mais au début, ça m'a fait très peur parce que chanter du Nougaro n'est pas chose aisée.
Non.
Et c'est souvent, on se dit, c'est pas aussi bien quand c'était Claude. Et on a beaucoup travaillé pour qu'elle s'approprie ce répertoire. Et je pense qu'elle a trouvé le ton juste
dans une
intimité, une caresse des mots, dans une sobriété qui fait qu'on entend très très bien le texte, alors qu'elle ne le surjoue pas. Et de toute manière, entre une femme qui chante très très doucement et dans le grave, on peut pas comparer avec Claude. Du coup, il y a pas de problème. On se dit pas c'est mieux, c'est pas bien. C'est une autre proposition de son répertoire. Et il y a aussi des gens qui n'aiment pas Claude Nougaro, qui adorent son répertoire, qui est très injustement méconnu, je trouve, qui est pas là où il devrait être. Mais aussi parce que la personnalité de Claude fait que des gens vont faire des chansons, des gens aiment et des gens ne supportent pas. Et là, je trouve que elle propose quelque chose qui est vraiment séduisant.
Sur l'écran noir de mes nuits blanches, moi je me fais du cinéma, sans pognon et sans caméra. Ils peuvent tous partir en vacances, ma vedette c'est toujours toi. Pour te dire que je t'aime, rien à faire. Je flanche, j'ai du cœur mais pas d'estomac. C'est pourquoi je prends ma revanche sur l'écran noir de mes nuits blanches où je me fais du cinéma. D'abord un gros plan sur tes panorama sur ta poitrine grand format. Voilà comment mon film commence. Souriant, tu t'avances vers moi. 1m80, tes biceps plein les manches. Tu crèves l'écran de mes nuits blanches où je me fais du cinéma. Voilà déjà dans tes bras, il y arrive en avalanche. Sur l'écran noir de mes nuits blanches. Où je me fais du cinéma, une fois, deux fois, 10 fois, 20 fois, je recommence la séquence où je te tombe dans les bras. Je tourne tous les soirs, y compris le dimanche. Parfois on sonne, j'ouvre, c'est toi. vas-tu me prendre par les hanches, comme sur l'écran de mes nuits blanches? Non, tu me dis, comment ça va? Et tu m'emmènes au cinéma.
Le cinéma, extrait de l'album de Nathalie Dessay, Sur l'écran noir de Mes nuits blanches, paru à la fin de l'année. Alors, avec cette ambiance de studio, on a l'impression très agréable de remonter quelques décennies en arrière, parce que, comme vous le disiez hors antenne, Yvan Cassar, les studios aujourd'hui, ils ont quasiment disparu.
Ah, c'est le drame.
Pas seulement parce qu'on n'utilise plus les instruments, mais parce qu'il n'y a même plus les espaces pour le faire.
Exactement.
Hein.
Ça devient très dur d'enregistrer un orchestre à Paris. Ça devient très, très complexe et dommage, parce que aussi l'industrie, le marché devient très difficile, donc on a du mal à avoir des orchestres, des musiciens, et donc les grands studios ne peuvent pas survivre.
Davout a fermé,
et j'ai fait
le palais des congrès a
presque
fermé.
Tous mes disques entre Davout et Ferber. Heureusement, Ferber est encore présent, tant mieux, mais c'est un peu difficile. Et c'est vrai que cet album, on a travaillé, Maxime Le Guil qui l'a mixé a fait un travail vraiment super beau, et j'ai fait tous ces disques avec mon collaborateur de toujours qui s'appelle Eric Chevalier, et on a vraiment veiller à travailler le son, la matière, qu'il y ait cet écrin soyeux, qui cette douceur, cette profondeur, parce que moi j'avais un rêve, je voulais vraiment que ce soit là autour de nous, quoi, qu'elle chante, qu'on est comme ça, qu'on soit embarqué, voilà, et qu'il y ait aucune rudesse, que ça soit comme ça, quelqu'un qui vient vous parler à l'oreille en
exactement.
Douceur, donc c'est puis les chansons sont tellement sublimes, quoi.
Ouais,
disons
vrai.
Les choses, et d'ailleurs cette chanson qui est de Michel Legrand, c'est vraiment, il a fait très très belles choses avec Claude Nougaro.
Bon, donc en gros, Yvan Cassar, vous préparez une symphonie, un concerto, un opéra, certainement, ça on va les découvrir quand vous allez les sortir. Vous avez envie de diriger, de faire connaître mieux la musique classique aussi, comme chef
d'orchestre.
Oui, c'est
ça. J'ai envie aussi de provoquer des rencontres. C'est difficile parce que la France n'est pas toujours prête à ça, mais provoquer des rencontres. Pour moi, il n'y a qu'une histoire de qualité. C'est ça qui compte. Bien chanter, bien jouer, bien, et que ça soit un chanteur pop, un chanteur de musique du monde traditionnel, une soprano. Voilà. De travailler sur des mélanges. J'ai travaillé par exemple avec Nemanja Radulović, qui est un violoniste absolument génial.
Mais là, vous êtes devenu carrément pianiste.
Voilà,
classique.
Et on a refait un album comme ça autour de la musique de l'Est. Moi, j'aime me plonger. Je reste jeune musicalement en me plongeant dans des nouveaux challenges où j'apprends. D'un coup, j'ai fait un album Brel avec Florent Pagny. Pendant 3 mois, j'ai écouté que du Brel en boucle. Et je me suis travaillé, avec Roberto, on a fait un album de musique sud-américaine. J'ai écouté de Pedro Vargas à tous les vieux chanteurs sud-américains. C'est comme ça que en travaillant, finalement, j'apprends. Et c'est pour ça que je reste enthousiaste, parce que à chaque fois, c'est tellement vaste, la musique.
Je recommande vos variations rococo de Tchaïkovski avec Radulović.
J'ai fait une version pour petit ensemble à cordes et piano des rococo, et c'était super. J'adore travailler avec Nemanja, parce que c'est pareil, c'est un homme de liberté. C'est-à-dire que faut pas s'arrêter à sa chevelure et en pantalon en cuir quand il prend un violon. Et quand il prend un violon, c'est vraiment un monde qui s'ouvre, et c'est ça qui est bien d'aller de nouvelles aventures en nouvelles aventures.
Voilà, et parmi les dernières, on va se quitter peut-être avec ça, puis vous, j'espère que vous reviendrez. Yvan, il y a parmi les dernières aventures Les plus belles comptines d'Oku. Alors ce sont vraiment tous les petits trésors très populaires, très connus de la chanson française, interprétés par des chanteurs ou des artistes d'aujourd'hui, et tout ça est mis en musique par vous.
C'est une idée de Sylvain Plantard, qui dirige le Morgan Télévision, et qui a remarqué le premier que sur le marché entre YouTube et les disques, finalement sur les comptines pour enfants, c'est un répertoire qui est très délaissé. Le répertoire pour enfants original a beaucoup progressé avec des chanteurs comme Aldebert. Ces comptines que tout le monde connaît, Au clair de la lune, en fait, toutes ces choses-là, Frère Jacques. Voilà. Finalement, c'était bien de prendre le temps de les faire bien, et la chance, c'était d'avoir sur chaque comptine un chanteur connu, pas connu parce qu'on n'est pas content parce qu'il est connu, mais ils ont une empreinte vocale. Et du coup, moi, j'ai essayé de travailler autour du style et de l'esthétique de la voix du chanteur. Et donc, ça me permettait, sur 20 comptines, d'offrir une esthétique très, très, très variée. Et je m'étais mis dans la tête que sur 20 comptines, on devait, un peu à l'image de ce qu'était Piccolo Saxo et compagnie, découvrir tous les instruments. Et là, sur 20 comptines, il y a tous les instruments à cordes, les bois, les cuivres, les percussions, la batterie, la basse, le piano, Et ça, je trouve ça génial parce que les enfants, il faut les éduquer, il faut leur donner à écouter plein d'univers. Et là, il y a du jazz, de la musique gypsy, la Clairefontaine, c'est un quatuor à cordes brahmsien avec une clarinette. Voilà, c'est, on se balade dans les styles grâce à, finalement, à ces chanteurs. Donc c'est un projet qui me tient très à cœur. Et puis en plus, j'ai mon petit, évidemment, on est à la radio, mais j'ai mon petit bonhomme, mon petit avatar. Alors ça, vous savez, moi, d'ailleurs, qui suis un enfant, j'étais trop content.
Voilà. La magie des couleurs de l'orchestre au service de la chanson, ça résume beaucoup une grande partie de votre vie. En tout cas, merci d'avoir été avec nous.
Merci à vous.
Yvan Cassar, on va se quitter avec... j'aime bien cette chanson-là, Mon âne par San Severino, donc extrait des comptines d'Oku.
Mon âne a bien mal à la tête. Madame lui fit faire un bonnet pour sa fête. Un bonnet pour sa fête. Aidez sous les lilas, la la. Aidez sous les lilas. Aidez sous les lilas, la la. Aidez sous les lilas. Mon âne a bien mal aux oreilles. Madame lui fit faire une paire de boucles d'oreilles. Un bonnet pour sa fête. Aidez sous les lilas, la la. Aidez sous les lilas. Aidez sous les lilas, la la. Aidez sous les lilas. Mon âne a bien mal à ses yeux. Madame lui fit faire une paire de lunettes bleues. Sous les lilas, la la, aidez sous les lilas, aidez sous les lilas, la la, aidez sous les lilas, guitare. Mon âne a mal à l'estomac. Madame lui fit faire une tasse de chocolat, une paire de lunettes bleues, une paire de boucles d'oreilles, un bonnet pour sa fête. Aidez sous les lilas, la la, aidez sous les lilas. Aidez sous les lilas, la la, aidez sous les lilas. Aidez sous les lilas, la, aidez sous les lilas.
Un extrait de ce délicieux album Les plus belles comptines d'Oko avec tous ses arrangements, donc ses orchestrations d'Yvan Cassar et puis les voix de San Severino, mais aussi Nolwenn Leroy, Aldebert, Cadmerade, François Morel, Elana Noguera et encore beaucoup d'autres dans ce disque qui est paru donc chez Sony Music, tout comme d'ailleurs le disque Nathalie Dessay Nougaro qu'on a entendu auparavant, paru également à la fin de l'année dernière, donc chez Sony Music. Deux très belles réalisations de mon invité de ce matin, Yvan Cassar.
Étonnez-moi Benoît, Benoît Dutertre, France Musique.
Et on se quitte avec un chef-d'œuvre de la valse viennoise, une grande valse de Karl Michael Zierer, Vena Madin, ça veut dire en argot viennois, en patois viennois plutôt, Les jeunes filles de Vienne, c'est son opus 388.
Thank you.
Les jeunes filles de Vienne, une très belle grande valse viennoise de Karl Michael Zierer. Vous savez, ça a été un des grands maîtres de la valse viennoise qui a vécu très tard puisque il était né en 1843. Il a bien connu Johann Strauss père, Johann Strauss fils et il est mort seulement en 1922 après avoir traversé toute cette extraordinaire fin de 19e siècle viennois. Cette valse, en plus, elle est belle parce que il y a cet ensemble de six fleurs, vous l'avez entendu, qui se mélange à l'orchestre. L'orchestre, ici en l'occurrence, l'Orchestre Symphonique de Vienne, sous la direction de Manfred Honeck, un très beau disque que je vous recommande et qui s'intitule « Printemps à Vienne ». Voilà, on va se quitter dans quelques secondes, juste le temps pour moi de vous annoncer. Tiens, si vous voulez noter sur vos carnets qu'à la fin de ce mois de février, eh bien nous serons au Salon de l'Agriculture en direct un vendredi après-midi. Ce sera le dernier vendredi de février. Si vous voulez nous rejoindre, ce sera le 28 et on sera là avec tout un plateau d'invités au milieu des vaches, des cochons, des poules, enfin tout ce que j'aime, au Salon de l'Agriculture France Musique cette année. Donc le 28 février, vous êtes les bienvenus. Ainsi s'achève donc Étonnez-moi Benoît, une émission de Benoît Dutertre préparée par Annie Comier. Aujourd'hui à la technique Xavier Atto avec Emmanuel Rose, réalisation Christine Amadou. Et la semaine prochaine, eh bien, je recevrai Frédéric Lombois, le chanteur Frédéric Lombois, qui sera donc mon invité pour ce prochain Étonnez-moi Benoît. D'ici là, bon week-end à tous sur France Musique.
À réécouter sur francemusique.fr.